de la connaissance. Une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué. Alors, chers auditeurs, bonjour. Les portes de la connaissance aujourd'hui avec quelqu'un d'exceptionnel. On a eu la semaine dernière les ovnis. On a parlé d'ovnis la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a parlé d'ovnis Languedoc et on a fait un petit voyage avec ovnis Languedoc sur le territoire des chasseurs d'ovnis. Et là aujourd'hui, c'est un tout autre sujet, mais un sujet qui rejoint aussi les ovnis un petit peu parce qu'il va nous en parler, il en a vu. C'est le commandant Crélé qui est parmi nous, qui est commandant de bord de 747, enfin qui a été, parmi les avions qu'il a pilotés, commandant de bord de 747, et il va nous parler de sa carrière de pilote. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pendant sa carrière de pilote? Comment il est devenu pilote? Qu'est-ce qu'il a vu d'étrange aussi dans le ciel, puisqu'il en a vu? Il a vu aussi des ovnis. Mais c'est pas tellement le sujet d'émission aujourd'hui, c'est surtout sur sa carrière, et savoir comment on peut embrasser une carrière de pilote, et quelles sont les particularités d'être un pilote de ligne, parce qu'il a été pilote de ligne sur des grandes lignes. Donc il va vous parler de tout ça, on va faire un grand voyage dans le ciel, ça va être magnifique, c'est merveilleux. Donc voilà, alors commandant Crélé, bonjour.
Bonjour.
Alors dites-moi-en un peu plus, vous êtes devenu pilote, d'accord, mais comment vous êtes devenu pilote? Est-ce que c'est un rêve d'enfant ou est-ce que c'est des circonstances autres que ça qui vous ont fait devenir pilote, de 747, mais pilote en général, parce que comment vous avez commencé votre carrière de pilote, voilà.
Voilà, eh bien écoutez, c'est effectivement un rêve d'enfant, mais pas mon rêve d'enfant, le rêve d'enfant d'un de mes camarades. Et nous avions, pendant l'été de 1950, nous avons été confrontés au fait que nous ne pourrions pas continuer nos études. Nos parents n'avaient pas les moyens. Et donc, on a décidé de s'inscrire et de se lancer dans quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout, c'est-à-dire le pilotage. Autrement dit, on a signé notre contrat d'engagement comme pilote de chasse, en tout cas pilote militaire, et malheureusement, mon camarade a été éliminé d'office pour des problèmes d'yeux, et je me suis retrouvé tout seul. Moi qui n'étais pas particulièrement intéressé par le pilotage, je me suis retrouvé élève pilote de chasse.
D'accord. Alors, élève pilote de chasse, et puis après, alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce que on est pilote de chasse, et comment ça se fait qu'on bifurque vers pilote de ligne?
Alors, écoutez, à l'époque, c'est-à-dire dans les années 50, presque tous les pilotes de ligne d'Air France étaient recrutés parmi les pilotes militaires. Presque tous. Et donc c'était, disons, un chemin, une route tout à fait normale pour devenir pilote de ligne que de devenir pilote militaire d'abord.
D'accord. Et donc le chemin était pilote de chasse. Vous avez été pilote de chasse pendant combien de temps?
Eh bien d'abord, il a fallu que je devienne pilote militaire. Je suis parti aux États-Unis. On était au début de la guerre de Corée. Et à l'époque, non seulement nos camarades américains partaient immédiatement en Corée dès qu'ils étaient brevetés, et nous, on était formés pour arrêter les chars soviétiques quand tout le monde était sûr qu'ils allaient déferler sur l'Europe un de ces jours. Autrement dit, je suis devenu pilote de chasse dans l'US Air Force. J'ai été formé par l'US Air Force. Alors c'était une époque où l'Amérique avait donné de nombreux avions de chasse à la France, mais nous n'avions pas les moyens de former les pilotes nécessaires. Ils se sont proposés pour former nos pilotes de chasse. Voilà. Et j'ai finalement, je vais aller vite. Je me suis donc retrouvé pilote de chasse et officier dans l'armée américaine en juin 1951.
D'accord.
Et par la suite, je suis resté aux États-Unis pour devenir pour me perfectionner dans le tir au sol. Voilà.
Ah oui, d'accord. Donc en fait.
Alors que je peux vous donner les avions que j'ai pilotés. J'ai donc commencé en primary sur T6, un T6. Ensuite, un avion un peu plus gros, mais toujours à hélice, T28. Et finalement, le T33, qui était un F-80 Shooting Star, mais à deux places, destiné à la formation. Voilà. Ensuite de ça, en école de chasse, eh bien, nous avons commencé sur T33, toujours, et ensuite, nous avons été lâchés sur F-84G et Thunderjet. Voilà.
D'accord. Alors, carrière, tout le monde ne devient pas pilote, donc c'est quoi l'idée de départ exactement? Parce que vous faites pilote de chasse, vous vous engagez dans l'armée, vous devenez pilote militaire, mais le fait de devenir pilote, c'était une idée que vous aviez déjà longtemps avant, ou c'était une idée qui est venue parce que vous êtes rentré dans l'armée?
Ah oui, absolument, j'avais pas d'idée préconçue. Disons que peut-être il y a un compte de modestie, mais je pensais même pas réussir. Autrement dit, je ne faisais pas trop de projets pour l'avenir. Et puis quand j'ai réussi, j'ai été obligé de me rendre à l'évidence. J'étais un pilote, ma foi, un pilote de chasse tout à fait compétent, tout à fait comme les autres. Et donc il n'y avait pas de raison pour que je ne continue pas un jour ou l'autre par Air France si j'en avais envie.
D'accord. Donc, en fait, on a une idée de départ qui n'est pas d'être forcément pilote. On rentre, on s'engage dans l'armée et en fait, vous vous engagez, vous devenez pilote. C'était pas une carrière préméditée, en fait.
C'était un petit peu différent parce que nous avions signé comme élève pilote. Et si ceux qui devaient échouer pendant la formation, n'étaient pas obligés de rester dans l'armée. Ils étaient libérés tout de suite.
D'accord.
Voilà. Alors, je vais rajouter quoi? Eh bien, une fois pilote de chasse en Amérique, nous sommes rentrés en France à la fin de l'année 53. Ce qui est très, très curieux, c'est que on a pratiquement été élève pilote pendant la guerre de Corée. À peu près, ça correspond à peu près à la guerre de Corée. Et on a bénéficié, si j'ose dire, d'un traitement de temps de guerre, c'est-à-dire 10% de pertes en école.
D'accord.
Nous sommes partis à 164, nous avons eu 16 morts pendant l'entraînement.
Est-ce que c'est pas plus difficile d'être pilote de chasse que d'être pilote de ligne? Parce que pilote de ligne, on a la responsabilité des passagers qui sont derrière l'avion. Alors que de chasse, on est responsable de sa propre vie. C'est-à-dire que si vous loupez votre tir, vous êtes dans le viseur de l'ennemi. Donc, en fait, c'est quoi le plus compliqué? C'est quoi le plus compliqué, en fait?
Oui, c'est beaucoup plus compliqué. Ça demande des réflexes très, très pointus. Beaucoup plus pointu que ceux nécessaires au pilotage d'un avion de ligne, c'est certain. Mais qui peut le plus, peut le moins, et je crois que c'est la raison pour laquelle Air France, à cette époque, préférait engager d'anciens pilotes de chasse comme pilotes d'Air France. Voilà.
D'accord. Alors, et après? Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que une période de pilote de chasse qui a duré combien de temps?
Eh bien, cinq ans et demi, les 6 mois supplémentaires, c'était pour l'affaire de Suez. L'affaire de Suez, on a arrêté les libérations des gens qui avaient fini leur engagement, et donc j'ai fait 6 mois de plus.
D'accord.
Donc ça nous replace à l'affaire de Suez, et là, j'avais réussi mon concours d'Air France, qui était quand même quelque chose de très difficile. C'était le niveau bac plus 2 ou bac plus 3 à peu près, avec de la trigonométrie sphérique, avec un bon niveau que je n'avais pas tout à fait, mais je dois dire que j'ai acheté les livres de maths sup et de maths sp et j'ai pratiquement tout seul, j'ai préparé mon concours d'entrée Air France. Et ça a marché. Ce qui confirme ce que disait un de nos professeurs de maths en terminale, si vous arrivez véritablement au niveau terminal, vous pouvez ensuite continuer des études en mathématiques tout seul. D'accord. C'est ce qui s'est passé, ça s'est bien passé.
D'accord. Alors après, pourquoi avoir embrassé une carrière de pilote de ligne ? Pourquoi pas avoir continué dans l'armée et pourquoi justement embrasser plutôt une carrière de pilote de ligne ?
Alors écoutez, je vais vous dire exactement ce que m'a dit mon commandant, mon commandant Creil, j'étais à Creil à ce moment-là, l'escadre de chasse de Creil. Il m'a dit, Galet, j'ai appris que vous aviez réussi votre concours d'entrée Air France. L'habitude voudrait que je vous envoie, sur T6 en Algérie, mais moi je trouve que vous avez tout à fait raison. Et il m'a dit, et c'était vrai, je suis lieutenant-colonel en fin de carrière, votre premier salaire à Air France sera égal au mien.
D'accord.
Et il avait raison. Donc, c'était une raison tout à fait financière, et il y avait une autre. J'étais certain, parce qu'on s'était entraîné, j'étais certain qu'on nous demanderait peut-être un jour de lancer des bombes atomiques. Et je dois dire que je n'avais pas du tout envie de le faire.
Évidemment, c'est vrai que d'être pilote et puis de lancer une bombe sur la tête de la population, c'est quand même
vous imaginez
un peu moins drôle.
Un garçon tout seul à bord de son avion qui se prépare à aller tuer un million de personnes ou 500 000 personnes.
Ouais.
C'est tout à fait... Et je ne sais pas du tout, je dois dire que je n'ai jamais discuté avec mes camarades de ça, mais je sais que finalement, tout compte fait, si on m'avait donné une bombe atomique à envoyer sur des civils, je l'aurais déposée quelque part et j'aurais déserté.
Ce qui est logique, quand on a du cœur et quand on n'a pas envie de tuer des pauvres innocents, ce qui est tout à fait logique. Alors... Justement, quand vous avez embrassé cette carrière de pilote civil, vous avez commencé sur quoi comme avion ? Parce qu'à l'époque, c'était pas les mêmes avions qu'on a aujourd'hui, c'était des bimoteurs à hélice, et il n'y avait pas tellement d'avions à réaction.
Alors, dans un premier temps, on était formé sur des DC-3, vous voyez, le bon vieux DC-3, bimoteur, le premier avion qui avait fait, je crois, le tour du monde, et ensuite... Quand je suis finalement rentré à France, il y a eu un intermède pendant lequel j'ai fait de la recherche minière pour le compte du BRGM, du Bureau de Recherche Géologique et Minière. C'était un travail intéressant, un travail classifié. On n'avait absolument pas le droit de révéler les endroits où on avait trouvé l'uranium. Et... J'ai travaillé pour cette firme pendant 3 ans, avant de rentrer à Air France finalement. Et donc quand je suis rentré à Air France, eh bien, il y avait des avions qui avaient été commandés et dont on n'avait absolument pas besoin, qui étaient des super constellations quadrimoteurs. Et d'autres avions, il y avait le 707, le Boeing 707, et comme avion moyen courrier, la Caravelle. Et j'ai eu la chance, j'étais pas mal classé dans en rentrant à Air France, et j'ai eu la chance d'être lâché directement sur Caravelle. Autrement dit, en Air France, j'ai piloté la Caravelle, ensuite le Boeing 707 comme copilote. J'ai été ensuite lâché à la Postale comme commandant de bord sur des petits avions, sur les petits avions et des DC-4. On transportait le courrier en France. Et ensuite, je suis revenu sur Caravelle. J'étais rapidement instructeur. Ensuite, Boeing 727, le gros réacteur, et le Boeing 747, qui est de loin un avion que j'aime beaucoup. Voilà.
D'accord. Les années ont passé et on va faire, on va aller voir ce que vous avez fait ensuite durant les années qui suivent. Juste pendant 3 petites minutes, on va en parler encore et puis après on va faire une page de musique. Mais alors, vous êtes rentré chez Air France, mais les avions ont évolué. Donc vous êtes allé d'avion en avion et vous êtes passé en avion à réaction à partir de quelle période ?
Non, j'étais en avion à réaction tout de suite.
Ah oui, déjà tout de suite.
Oui. J'ai eu la chance. J'étais dans le premier tiers de ma classe d'entrée Air France et le premier tiers, on a été lâché directement sur Caravelle. Voilà.
D'accord.
Donc à Air France, j'ai fait de la Caravelle. Le seul avion hélice que j'ai piloté, c'était le DC-4. Mais c'était à la Postale, on transportait le courrier en France, vous voyez. Et sinon, après, je suis revenu sur Caravelle, Boeing 737, non, qu'est-ce que je raconte, Boeing 727, je me souviens plus, et 747 ensuite.
Voilà, 747 en dernier, d'accord.
Oui.
Bon. On va faire une petite pause musicale. Alors, on dit à tous les auditeurs, je vous dis, tous ceux qui veulent retrouver l'émission en podcast, si vous venez de prendre l'émission en ligne maintenant, vous pouvez la retrouver sur les portes de la connaissance d'Audoradio, les émissions du vendredi à 14h. En podcast, vous pouvez les retrouver et vous pouvez retrouver l'émission si vous la prenez en cours, si vous prenez l'émission maintenant. On va faire une petite pause musicale et après, on revient sur la carrière du pilote, Monsieur Grélé. Et en même temps, il nous dira quelque chose d'étonnant. Il a été témoin aussi de rencontres avec des objets volants non identifiés. Il nous en parlera un petit peu tout de suite après. Allez, à tout de suite.
Come on, put the fire. Come on, come on.
Alors, de retour à l'antenne après.
Allô, allô.
Oui, on est en direct, commandant Violet. De retour à l'antenne avec la musique de Mika qui parle d'avions, justement. Vous voyez un très beau clip où on voit des avions de chasse et c'est justement une chanson en l'honneur des pilotes de ligne et des pilotes de chasse. Un très beau clip. Alors, on est de retour pour ceux qui nous rejoignent sur les antennes, sur l'antenne avec, dans les portes de la connaissance avec le commandant Grélé aujourd'hui qui est pilote, qui a été pilote, évidemment, militaire et qui a ensuite devenu pilote de ligne, et le commandant Grélé, beaucoup de gens le connaissent, il est passé à la télévision pour, c'est justement pour parler de ce qu'il a vu dans le ciel, puisqu'il a vu des ovnis, et on en parlera tout à l'heure. Alors c'est pas, il en a pas vu tout le temps, évidemment, mais il en parlera un petit peu, il en a vu deux fois, et il en parlera, il va nous en parler de ce qu'il a vu. Alors commandant Grélé, qu'est-ce qu'on peut dire après dans votre carrière de pilote? Vous êtes devenu pilote de 747, alors comment ça s'est passé exactement?
Alors, 747 est un avion absolument extraordinaire. Il était totalement autonome. Il n'y avait pas encore de GPS. Hein, et il avait des centrales à inertie qui étaient calées au départ et qui ensuite travaillaient en parallèle, se corrigeaient mutuellement et éventuellement, si bien que, à supposer qu'après notre décollage de Paris, tous les appareils électriques soient tombés en panne, on pouvait quand même rejoindre notre point de destination à 14 heures de vol de plus loin, par exemple à Los Angeles, avec une erreur de position d'une vingtaine de kilomètres. C'est quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que si on avait traversé l'Atlantique, puis les États-Unis pour arriver à Los Angeles, depuis Paris, on sera arrivé avec une erreur très très faible au point de vue de la navigation.
En fait, on a affaire à un pilotage automatique, ou alors est-ce que vous conduisez, enfin, moi, d'après mes connaissances, je sais qu'un pilote met en pilotage automatique et souvent conduire à vue quand il va se poser, quand il se pose. Comment ça se passe exactement?
Eh bien, en général, on branche le pilote automatique. On branche le pilote automatique en cours de montée. On fait la plus grande partie de la plus grande partie de la croisière en pilote automatique. Et ensuite, moi j'avais pris l'habitude de reprendre l'avion en approche finale, bien avant le début de l'approche finale, pour me refaire au pilotage manuel. Il est, de temps en temps, on est obligé de se poser en pilotage manuel, soit que les moyens d'atterrissage soient en panne au point de destination, ou que seul l'avion soit en panne. Ça arrive aussi. Et ça ne pose vraiment, généralement, aucun problème.
Si on conduit à vue, comment ça se passe? Parce que le pilotage automatique, imaginons qu'il tombe en panne, ça peut arriver ou pas?
Ah ben bien sûr.
Alors, oui, absolument. Conduire à vue, c'est compliqué à l'instrument de bord pour retrouver...
Alors attendez, ne mélangeons pas. Ne confondons pas à vue et manuel. Le pilotage, sans utiliser les moyens automatiques, c'est du pilotage manuel. Maintenant, on n'est pas forcément à vue. Très souvent, on est à l'intérieur des nuages ou au-dessus des nuages quand on pilote. Alors, on peut piloter en manuel au-dessus des nuages, dans les nuages, et ne pas être du tout en vol à vue. Voilà. C'est pour faire la différence entre vol à vue et vol manuel.
Oui, vol à vue, c'est vol à la vision. Et alors que
vol à vue, c'est quand il fait très beau.
Et après, il y a le vol aux instruments qui vous guidez avec les instruments, la boussole, etc.
Voilà.
Et vous retrouvez votre...
Pas seulement la boussole, aussi le pilote, comment dirais-je. Oui, enfin, tous les instruments. Je suggérerais à quelqu'un qui voudrait voir un petit peu à quoi ça ressemblait. On doit trouver ça sur Internet sans grande difficulté. Le tableau de bord d'un avion de ligne, disons, dans les années 90, quoi. Voilà.
D'accord. Alors, la carrière de pilote continue, donc vous faites ça. Pendant combien de temps vous avez été pilote de 747?
Eh bien, écoutez, en tout, je vais résumer. Hein. J'ai une carrière de pilote d'une quarantaine d'années, oui. Je ne dis pas de bêtises, oui, j'ai commencé à 20 ans, j'ai fini à 60 ans. Voilà. Et donc, et j'ai terminé ma carrière avec 17 600 heures de vol.
Oui. Ce qui est déjà une belle carrière, parce que c'est vrai que...
Oui, c'est
pas mal.
C'est correct.
C'est correct.
Oui, ça va. Ça va.
Est-ce que vous avez eu des problèmes quand vous avez été sur votre carrière de pilote, des avaries sur l'avion ou... Parce que souvent, les gens posent ce genre de questions. Mais est-ce que vous avez une carrière lisse ou est-ce que vous avez une carrière avec des chaos où vous auriez eu, par exemple, une avarie ou autre chose, un réacteur qui prend feu ou autre chose? Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des avaries?
J'ai eu une carrière tout à fait correcte. La meilleure preuve, c'est que je suis encore vivant. Vous voyez, donc tout s'est bien passé finalement. Et j'ai eu quelques petits problèmes, des fois pas si simples que ça. Par exemple, avoir un moteur qui prend feu, qui est pratiquement cassé sur quatre, et me poser sur les trois moteurs restants, ça m'est arrivé une fois. Voilà. Donc dans l'ensemble, j'ai eu une carrière non seulement satisfaisante, mais une carrière sans grand danger et sans gros problème. Voilà.
Comment ça se passe quand on a une avarie? Comment on réagit par rapport à l'avarie? Est-ce que ça crée un stress énorme ou est-ce qu'on maîtrise?
Alors, c'est vrai que je ris parce que un jour, j'ai eu un problème assez grave, un moteur numéro 3 qui a explosé en vol et qui momentanément a tourné de travers avant que je l'arrête. Et mon épouse était derrière moi. On a le droit d'emmener, c'était un avion d'un transport de cargo, un cargo, et j'avais emmené mon épouse, j'avais parfaitement le droit de faire. Et après, elle m'a dit, quand je vous ai vu, la façon dont vous avez appliqué la procédure, parce qu'on a une procédure à suivre, bien entendu, quand on a une avarie importante, elle dit, j'ai eu l'impression que vous étiez des robots. Je m'attendais à ce que vous ayez des émotions, etc. Là, à l'instant même où vous avez eu ce problème, plus la moindre émotion, plus rien. Voilà. Ça, c'est comme ça qu'un professionnel réagit, vous voyez.
Est-ce que justement, c'est la maîtrise, on appelle ça de la maîtrise, c'est-à-dire que effectivement, quand vous êtes dans une situation compliquée, s'il n'y a pas de maîtrise et si vous laissez place à l'émotion, ça peut créer un stress important et ça peut créer des complications. Est-ce que je me trompe?
Pas du tout. Mais un professionnel garde une maîtrise parfaite tout le temps, hein.
D'accord.
Eh oui.
Bon, alors maintenant, on va venir à votre on parle, vous savez, dans l'émission, on avait accueilli Jean-Claude Bourré, on avait accueilli pas mal de professionnels qui parlent
de... Jean-Claude Bourré, que je connais d'ailleurs personnellement, voilà. Pour qui j'ai beaucoup de respect, oui.
Voilà, on a eu des grands messieurs de l'ufologie qui sont venus sur l'antenne, qui nous ont parlé d'OVNI en tout sérieux, je dis bien. Et je répète aux auditeurs, quand on parle d'OVNI ici, c'est très sérieux. Il y a une façon scientifique de parler de ça. On en parle sérieusement et pas n'importe comment. Donc, qu'est-ce que vous aussi, vous en avez eu deux fois, c'est ça?
Deux fois, c'est exact. Et la première fois... Je ne peux même pas dire que je l'ai vu seulement sur le radar. Mais on était au-dessus d'une couche de nuages. Notre radar fonctionnait très bien parce qu'on avait aussi un orage à une trentaine de kilomètres devant nous qu'on voyait déjà sur le radar. Et j'ai remarqué un point qui nous dépassait par la droite. Et ce point avait quelque chose de très particulier. Au lieu d'être rond, il avait presque la forme d'une goutte d'eau. Ce qui veut dire que quand on passait un tour de radar, quand on passait d'un tour de radar au suivant, l'objet s'était déjà déplacé. Et ça attaque. ça attire beaucoup l'attention, parce que la plupart du temps, ça ne se passe pas. Donc j'ai immédiatement déclenché un chronométrage de cet écho qu'on voyait sur le radar, et tout calcul fait, il allait à peu près 5500 km/h. Ce, à une altitude inférieure à la nôtre. On devait être environ à 11 000 mètres et il devait se trouver en dessous de 10 000. Or, ça, c'est pas possible. Aucun engin construit sur Terre ne peut se promener à des vitesses pareilles à basse altitude, c'est-à-dire là où la densité de l'air ferait presque prendre feu aux ailes. J'exagère un petit peu, mais en tout cas, il y aurait une grosse augmentation de température et puis un freinage. Si vous vouliez faire aller un avion normal à cette vitesse-là, à 5500 km/h, le freinage dynamique de l'air vous empêcherait de le faire de toute façon. Alors, nous avons suivi cet écho. Nous étions quatre dans le... J'étais copilote, mais nous étions quatre dans au cockpit de l'avion. Il y avait le commandant de bord, un visiteur et... le commandant de bord, le mécanicien navigant. Et on avait exceptionnellement, comme on était en Amérique du Sud, et que la transmission ne marchait pas très bien, on avait un radio. Voilà. Radio qui manipulait encore, qui nous donnait les informations en morse, qui transmettait nos positions en morse. Ça me rajeunit pas, voilà. Et j'ai extrapolé la direction que suivait cet engin, et par curiosité, il est passé à peu près au-dessus de la Concagua. J'étais en Amérique du Sud, il est passé. Alors, je sais que j'ai fait un rapport, naturellement, nous avons fait un rapport, et je sais qu'il a été transmis aux États-Unis, dans un truc de recherche qu'ils ont eu à un moment. C'est pas impressionnant, semble-t-il, mais en réalité, c'est très très impressionnant, parce que être dépassé par quelque chose qui va à une vitesse pareille à basse altitude, encore une fois, à ma connaissance, ce n'est pas possible avec une technologie humaine connue. Voilà.
D'accord. Vous voulez dire que c'est exogène et que...
Exogène,
ça veut dire que c'est pas terrestre, en fait. Donc, voilà.
Je ne sais pas terrestre. Je vais vous dire, quand on me fait des remarques comme ça, je dis, attendez, je n'ai pas fait aucun truc. Peut-être que ça vient de Suisse ou même d'un pays beaucoup plus petit, hein. J'en sais rien. Mais, en tout cas... Les technologies aéronautiques que je connais ne permettent pas un avion de construction normale d'aller à des vitesses pareilles à basse altitude, relativement basse altitude. Voilà.
Après, on a des objets militaires qui sont capables d'aller à de très grandes vitesses aujourd'hui. Des objets
non, il n'y en a pas.
Vous ne pensez sur des zones secrètes militaires, on puisse construire des engins pareils?
Alors, écoutez. D'abord, on était en 1974.
Oui, d'accord.
C'était au moment des Jeux Olympiques de Los Angeles. Donc, c'est facile de s'en souvenir. Si ça n'existe pas maintenant, ça existait certainement encore moins en 1974.
Oui, tout à fait.
D'accord. D'ailleurs, il n'y a qu'à reprendre les avions les plus rapides à cette époque. Il y avait effectivement, je crois déjà, des avions furtifs, qui allait très vite, qui devait être capable d'aller à Mach 3, certainement, mais il n'allait pas à Mach 3 à très basse altitude. Il montait un peu plus haut pour aller à Mach 3, oui.
D'accord.
C'est enregistré, ça?
D'accord. Alors, et le second, alors, c'est quoi?
Alors, le second, c'est justement celui-là qui a eu lieu au moment des Jeux Olympiques de Los Angeles. Le précédent, c'était encore avant. J'étais à la verticale de... Oui, à la verticale presque de la frontière entre les États-Unis et le Canada, et je me préparais à commencer une descente vers Montréal. Alors, une descente sur un avion de ligne comme le 747, il y a toute une procédure à suivre, et, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Voilà. Autrement dit, ça prend du temps, pour être préparé. J'étais donc en train de préparer mon briefing de l'équipage, quand le contrôle de la navigation aérienne m'a appelé. Et il m'a dit, alors c'était Air France, vous allez être dépassé à droite par un objet rapide. Ils n'ont pas dit beaucoup. On l'a repéré à partir du Pacifique. Et il arrive vers vous, il va passer à votre droite. Bon. Je dis bien, écoutez, j'observe, pas de problème. Et j'ai chronométré au travers et j'ai chronométré à 45 degrés, ce qui est une façon de mesurer la vitesse propre d'un engin ou d'une chose qui vous dépasse ou qui vous croise.
D'accord.
Pareil, j'ai vu passer à ma droite trois boules lumineuses, mais qui étaient tenues ensemble, hein, qui ne variaient pas de position. Trois boules lumineuses, suivies par une espèce de traînée lumineuse, mais très longue et très lumineuse. Et là encore, mon évaluation de la vitesse de cet engin, c'était à peu près 5500 km/h. Voilà.
Ouais, donc, c'est très rapide.
J'ai rappelé le contrôle en leur confirmant que j'avais été dépassé et je leur ai dit, de toute façon, moi, je dépose un Hermis. Un Hermis, c'est une procédure qu'on dépose quand on estime qu'on a eu un risque de collision grave. Et ils m'ont dit, ah, mais non, l'engin est passé en limite de voie aérienne. Vous voyez, on circule d'habitude dans des voies aériennes, et là, il est passé en limite de voie aérienne, donc, théoriquement, à 10 000 nautiques à notre droite. C'est ça qui m'a permis, d'ailleurs, d'évaluer correctement la vitesse.
D'accord.
Et j'ai décrit ce que j'avais vu, et deux autres avions sont intervenus sur la même fréquence. Que je ne me trompe pas, il y avait un Olympic Airways, un avion grec, un Olympic Airways et un avion suisse aussi. Voilà. Donc c'est quelque chose d'inconnu qui allait très vite, qui m'a doublé à droite à une très très grande vitesse et surtout à peu près la même altitude que la nôtre. Voilà.
D'accord.
Vous savez tout.
Voilà, donc vous avez là le... Alors je précise aux auditeurs que non seulement on a eu des grandes pointures de l'ufologie sur l'antenne, mais là vous avez le témoignage d'un commandant de bord qui est accrédité, entre parenthèses, à pouvoir dire qu'il a vu quelque chose. Et en tant que pilote chevronné, il peut vous certifier que les vitesses étaient exactes et que donc ce qu'il a vu, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, donc la question se pose toujours de savoir ce que c'est, d'où ça vient, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a bien un mystère derrière et ça, c'est certain. Alors...
oui, disons que il se passe quelque chose. Si un engin est détecté en dessous de 20 000 mètres, il est très peu probable que ce soit... Au-dessus de 20 000 mètres, pardon. Il est très peu probable que ce soit un avion. Ça peut être une fusée, ça peut être une bombe atomique qui nous vient de Russie ou d'ailleurs, mais en tout cas, c'est certainement pas un avion. Voilà. Et... ensuite, entre 20 km d'altitude et 80 km d'altitude, théoriquement, il n'y a rien. Rien du tout. Rien ne s'y promène, etc. Et si un engin est détecté dans cette zone, il est fort à penser que ce n'est pas un engin de construction humaine. Voilà.
Ouais, d'accord.
Ça vous parle un petit peu comme
voilà.
Ça,
ça, ouais. ça me parle et ça parle aux auditeurs. De toute façon, le grand mystère de l'ufologie des ovnis en général, c'est un mystère qui est résolu par certains qui sont persuadés que ce sont des objets exogènes. D'autres vont pencher vers des objets et vont penser que ce sont des objets de construction secrète sur des terrains militaires, et d'autres vont penser que ils ne savent pas, tout simplement. Donc voilà, il y a trois grands mystères. C'est vrai que le témoignage d'un pilote de ligne chevronné sur le sujet laisse à penser qu'effectivement on a affaire à quelque chose de pas commun et quelque chose qui n'est peut-être pas d'origine humaine. Donc voilà, effectivement, merci commandant Grélet.
Je vais rajouter un tout petit point. En réalité, il y a eu, à ma connaissance, plusieurs personnes qui ont comptabilisé les observations d'engins rapides, trop rapides, etc. dans le ciel, et des engins observés justement par les pilotes de ligne ou les pilotes de chasse. Eh bien, ce sont plusieurs milliers par an, hein, il n'y a pas de problème.
D'accord. Vous connaissez d'autres pilotes, évidemment, entre pilotes vous côtoyez. Est-ce que vous connaissez Jacques Krien ou pas ?
Comment Jacques ?
Jacques Krien, le pilote qui a été pilote de la patrouille de France, Jacques Krien.
Non, je ne le connais pas.
Parce qu'entre pilotes, on se connaît souvent, et c'est vrai qu'entre pilotes, on se connaît des fois, et puis donc...
Oui, mais enfin, on est quand même assez nombreux. Et curieusement, j'ai fait un vol avec la patrouille de France à une époque antidéluvienne où la patrouille de France était encore sur F-84F. Et c'était le commandant de la Schnall qui la dirigeait. Et un jour, il manquait un des équipiers de la patrouille de France. Et j'ai été mis sur les ordres pour faire un vol d'entraînement de la patrouille de France. Sur F-84, donc sur un gros avion de chasse.
D'accord. Bon.
Et depuis, ils ont les avions sont beaucoup plus adaptés à l'acrobatie. Voilà.
D'accord. Commandant Grélet, l'émission arrive à sa fin. Donc, merci infiniment pour ce beau témoignage de cette carrière de pilote magnifique que vous nous avez fait part, parce que c'est pas tous les jours qu'on a un commandant de bord de 747 sur les ondes. Et puis, merci infiniment, et puis pour ce témoignage sur les ovnis aussi, merci beaucoup. Merci beaucoup aux auditeurs qui ont écouté cette émission en direct aujourd'hui. Vous retrouverez le podcast sur les portes de la connaissance dans les émissions du vendredi d'O2 Radio. Merci à tous, merci à tout le monde, merci à tous. Sachez que la prochaine émission, c'est Les Soleils de nos régions sur l'artisanat d'art vendredi prochain, et après Culture et patrimoine d'Evelyne Padrino. Et le mois prochain, on aura la chance d'avoir Greenpeace qui sera sur les ondes d'O2 Radio. Donc tous ceux qui sont intéressés par la défense de l'environnement et des animaux marins pourront nous rejoindre pour écouter Greenpeace. Merci infiniment, commandant Grélet. Merci beaucoup.
Eh bien, c'est moi qui vous remercie. J'ai passé un moment intéressant. Ça m'a obligé à repenser un petit peu au début de ma carrière, et à ma foi, ce n'est pas forcément désagréable. Voilà.
Merci beaucoup.
Encore.
Merci aux auditeurs. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir. Les portes de la connaissance. Une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué.